C'est évidemment le sujet de conversation. C'est pourquoi on a créé cette commission spéciale ce matin avec nos deux commissaires réguliers. Il y a Lise qui s'ajoute à la discussion. Donc, on va parler du blocus. Hier, on parlait du leadership de Justin Trudeau qui nous a dit « j'ai un plan ». Les premiers ministres, eux, se sont parlé au téléphone. M. Legault a évoqué hier la possibilité de faire intervenir la police. Ben, à tour de rôle, on veut vous entendre. Commencez par Alexandre.
Il faut que Justin comprenne qu'il est en train de jouer sa carrière politique, là. S'il nous dit qu'il a un plan et que demain matin, il nous annonce ça puis que c'est un pétard mouillé, ça va être très, très, très difficile pour lui de pouvoir rester en place. Alors, l'heure est très, très grave. C'est pas une petite affaire, c'est pas une mince affaire. Et on a très hâte de voir comment est-ce qu'il va être capable de gérer ça, démontrer un leadership, une fermeté, parce que tu peux pas arriver en disant uniquement, regardez, là, on a de bons vœux pieux, on va faire ci, on va faire ça. Non, non, ça prend de la rigueur, ça prend une certaine démonstration de force, ça prend une démonstration de leadership. Et est-ce que ça va nous amener éventuellement vers une élection référendaire? Parce que peut-être que le plan que notre ami Trudeau va vouloir mettre de l'avant va être ambitieux. On l'espère. On espère qu'il va y avoir une échine qui se cache encore dans la colonne vertébrale politique de cet homme-là et probablement qu'il va devoir amener ça devant les électeurs.
Lise.
Quand on parle d'agir, et puis ça, je pense qu'il y a bien des gens qui entendent un peu ce que François Legault a dit et Andrew Scheer de façon un peu exaltée. Il faut envoyer la police, il faut envoyer l'armée, il faut démanteler, il faut nettoyer la place. Je continue de croire, même si je suis très sensible aux arguments et très sensible par rapport à le dommage sur l'économie, sur la vie des gens au quotidien qui vont travailler et ainsi de suite, que l'usage de la force, de quelque manière que ce soit, à ce stade-ci des choses, alors qu'il n'y a pas eu une seule négociation entre qui que ce soit, hein, quand même, personne ne se parle, ça serait catastrophique. Il y a eu hier, d'ailleurs, ça c'est intéressant, à Edmonton, il y avait une barricade sauvage, si on peut dire, un peu comme celle qui a été érigée à Saint-Lambert par des non-autochtones, qui a été démantelée par des citoyens qui sont arrivés avec leur F-150 et puis ils ont enlevé les bancs de neige, puis ils ont enlevé les pancartes, puis ils ont enlevé la barricade et il s'est rien passé. Pourquoi il s'est rien passé? C'était pas une barricade autochtone. Et c'était pas en territoire autochtone. Bon, évidemment, je sais, le Canada au complet, bon, on n'ira pas là, on s'en sort pas. Mais un des problèmes de cette crise-là, et c'est une véritable crise, c'est que non seulement on ne sait pas à qui on parle, mais en plus, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Parce que les manifestants qui sont à Saint-Lambert, en ce qui me concerne, ils font du surf sur la cause autochtone sans vraiment la comprendre. Eux, ils disent « Hey, as-tu vu la belle occasion là, d'aller se faire entendre pour l'environnement, puis envoie, on y va. » C'est pas juste une crise reliée à l'environnement. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en ce qui me concerne, là où il devrait y avoir intervention, puis musclée, c'est là où des gens sont venus se mêler d'un débat qui, pour l'instant, ne les regarde pas.
Luc, la solution à court terme est simple. Tout le monde l'a en tête. Elle doit déjà être écrite, d'ailleurs. Premièrement, promettre de négocier avec des résultats. Deuxièmement, retirer la GRC du territoire de Wet'suwet'en. Troisièmement, arrêter les travaux de l'oléoduc temporairement. Mais sauf que derrière cette solution à court terme-là, la solution à long terme, elle, est extrêmement complexe. Elle ne viendra jamais parce que il faut renégocier les territoires historiques de Wet'suwet'en qui ont été confirmés par la Cour suprême en 1997. La Colombie-Britannique, quand elle a donné l'autorisation de passer l'oléoduc, elle a joué sur une interprétation de ce jugement-là pour faire passer l'oléoduc. Et donc, là, on va tomber dans le solide, là. On va tomber dans le difficile, parce que en plus, c'est toutes les nations autochtones, il y en a 634 au Canada, qui vont dire « Oups, by the way, moi aussi, j'ai une revendication territoriale. Il ne veut pas aller là. » L'autre affaire où il ne veut pas aller, c'est que il ne veut pas mettre à mal l'ensemble des oléoducs ou des gazoducs qui sont prévus sur le territoire ou des développements énergétiques d'extraction d'hydrocarbures qui sont prévus, notamment Tech Frontier.
Donc, et GNL.
GNL Québec.
Oui, oui.
Donc, à court terme, solution facile. À long terme, cul-de-sac.
Je veux dire que moi, j'ai toujours été assez surpris de quand Trudeau a annoncé l'acquisition de Trans Mountain. Je me suis dit, à la base, waouh. Un move stratégique incroyable. Il va maîtriser le pipeline, il va s'assurer de pouvoir le contrôler et c'est pas vrai qu'il va arriver avec un plan de développement pour l'industrie pétrolière de l'Alberta. Alors aujourd'hui, je vous dirais qu'on a eu un vote. Trudeau, c'est très, très clair pourquoi les gens ont voté pour Trudeau. Ils ont voté pour Trudeau pour un plan environnemental. Ils ont voté pour Trudeau pour du progressisme. Puis ils ont voté pour Trudeau parce qu'il s'est jamais caché de vouloir faire la paix avec les nations autochtones. Il y a un mandat aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas? Et pourquoi est-ce qu'il fait exactement le contraire de pourquoi on l'a élu? Et moi, je ne comprends pas.
J'ai une théorie là-dessus, hein. Très simple. Une et demie. Moi, je pense qu'il souffre terriblement de l'absence de son conseiller Gerald Butts, qui à Ottawa, les gens appelaient le vrai premier ministre, qui était comme le penseur, alors que Justin était le porte-parole, si on peut dire.
L'acteur,
oui. C'est, voilà le bon mot. Ça, je pense que c'est une chose. Puis je vais pas faire de la psychopop à deux scènes, là, mais je le regarde aller, là, présentement. Là, j'ai comme l'impression que ce gars-là, il va pas bien. Là. Depuis, on a parlé récemment, là, depuis les élections, il est comme pas là. Il est comme, je sais pas, c'est comme s'il était pas branché sur ce qui se passe. Parce que là, je m'excuse, là, on est sur le 220, là, au Canada. Puis tout le monde est sur le 220, sauf Justin Trudeau. Peut-être qu'il veut donner l'image du gars qui est en contrôle, mais c'est pas ça qui sort. Il donne l'image du gars qui est juste pas là.
Mais il y a un élément.
Qui sait pas quoi faire, puis qui est comme, oh, maman, qu'est-ce qu'il m'a faire?
Hier, je relisais les propos du père de Mme Wilson-Raybould, qui est un chef héréditaire autochtone de la Colombie-Britannique. Pas de la même tribu, là, mais d'une autre, mais quand même. C'est un chef héréditaire. Quand sa fille a été dégommée comme ministre de la Justice, il faut lire les propos, là. Il a traité Justin Trudeau de clown. Il a dit que Trudeau était... C'était épouvantable ce qu'il venait de faire. C'est une insulte non seulement à sa fille, mais à tous les Autochtones du Canada. Que les engagements qu'il avait pris de grande réconciliation, c'était une farce, que c'était pire que des conservateurs. Je ne dis pas là, que c'est devenu un conflit personnel. Mais moi, je pense que le lien de confiance, quand les chefs veulent même pas te parler, veulent pas te rappeler, il y a quand même un message, je sais pas, là.
Envoyé. C'est le premier ministre au bout de la ligne. Je veux pas y parler.
Dans
lui.
Deux semaines, on sera disponible.
C'est ça, dans deux semaines. On...
Ouais.
Et une chose, je reviens sur la question de l'usage de la force là, pour. On parle beaucoup d'Oka, hein, présentement, parce qu'on fait des parallèles, il y en a, mais. Une situation dont on ne parle pas souvent, c'est Ipperwash, 1995. Un groupe Anishinaabe qui revendique un territoire qui se sont vraiment fait carrément voler par le fédéral pendant la Deuxième Guerre mondiale pour établir une base militaire. Et c'est dans, puis après ça, c'était un parc provincial. Et là, ils ont fait un blocus. Le premier ministre Harris de l'époque avait dit... Selon le procureur général, qui dit l'avoir entendu, « I want the fucking Indians out of the park ». Alors, ils ont envoyé l'OPP. L'OPP a perdu les pédales. Il y a un sniper de l'OPP qui a visé un Autochtone qui portait un bâton, disant que c'était une carabine, alors que c'était un bâton. Il l'a tiré. Il l'a pas tué sur le coup, mais l'OPP a retardé l'arrivée de l'ambulance et le gars est mort. Ça, c'est une crise. Hein? On s'entend, là. Et je vous évite là, les détails, mais finalement, là, les Autochtones, ils ont retrouvé leur territoire. Ça a pris 21 ans. Quand on dit là, qu'il n'y a pas de confiance, là, ça a pris 21 ans après cette crise-là pour que finalement, là, que le fédéral dise...
Entre autres choses, ça a pris 21 ans parce que Harris a retardé l'enquête pendant tout le temps où il était au pouvoir.
Exactement. Ouais. Ah. Ça a été Ipperwash, là. Puis j'ai ici devant moi les recommandations de la fameuse commission où ils disent comment gérer les relations entre les policiers et les Autochtones. Bien, je veux dire une affaire, fessée dans le tas et pas dans la liste.
Non. Il y a une semaine, quand il y avait juste deux chaises de pique-nique puis un abri tempo sur les voies ferrées, j'ai dit « Attention, ça va devenir international ». Puis tout le monde « Ah, 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 ça va devenir international ». Aujourd'hui, allez voir les journaux. BBC, The Guardian, New York Times, partout, La France, Libération,
oh,
Le Monde.
Figaro, on a vu ça.
Le Figaro, on l'a vu. Pourquoi c'est international? Meilleure histoire en ville. Des Indiens, de l'hiver. Il ne reste plus d'hiver nulle part dans le monde. Tu sais qu'il n'y a pas de neige en ce moment, hein, dans les Pyrénées, puis à Nagano, puis au Japon. Des Indiens, de l'hiver, un blocus, de la poudrerie, des trains arrêtés.
De l'épinette.
Des problèmes d'approvisionnement. Moi, je te dis, ça dure une semaine de plus, là, puis ils envoient des représentants de la presse aux barricades. Ils vont trouver petites, les barricades, mais ils vont le prendre avec un
arbre. Ils sont probablement déjà dans des avions. ça s'en vient.
C'est une histoire. That's a story. Ça, là, quand, ben, parle-moi pas d'impeachment puis tout. Là, qu'est-ce qu'il a dit qui? Pis qu'est-ce que, là, t'as de l'histoire, là, t'as de l'image. Là, fait que l'attente va aussi coûter cher. Donc, agir tout de suite, pas une bonne idée. Attendre, c'est donner de l'importance au problème. Alors, ils sont pris entre une enclume et un marteau.
Mais tu t'appelles Trudeau, là, tu prends ça de quelle façon? Tu prends quoi comme engagement? Tu disais un peu tantôt là, de dire on retire la GRC. OK, on peut le régler à court terme, peut-être.
Oui, c'est ça.
Mais là, tu veux lever le blocus, tu veux que les gens retrouvent leur job à Via Rail, tu veux que les convois puissent livrer la marchandise. C'est ça, normalement, ton objectif comme premier ministre.
Tu veux mettre en place l'équivalent de la paix des braves avec l'ensemble des communautés autochtones canadiennes.
Tu ne feras pas ça en 48 heures.
Non, tu ne le feras pas en 48 heures, mais le dialogue doit être ouvert. Il n'y en a même pas de dialogue aujourd'hui par rapport à ça.
Ils ne veulent pas parler au premier ministre, imagine. Ils ne veulent pas parler au gouvernement en place.
Mais pourtant, c'est quand même le premier ministre qui a été le plus proche des Autochtones. Miller a fait des concessions à pu finir. Il y a quand même eu des promesses sur la rachat de territoire. Il y a eu des rachats de territoire, d'ailleurs, dans la communauté de Kanisataki, aux abords. En Ontario, etc. Un milliard de dollars, si je ne m'abuse.
Ouais, ouais.
Donc, il ne faut pas rien, là. Mais il n'y a,
pas jamais eu de conditions gagnantes comme celle-là. C'est-à-dire que si tu avais un interlocuteur qui avait aujourd'hui un peu d'échine, probablement que les Autochtones seraient dans la meilleure situation possible pour pouvoir négocier ce qu'ils recherchent. Mais une chose certaine, c'est que ne va pas leur donner un ultimatum. Parce que dès que tu leur dis, mardi, 14 heures, vous n'êtes pas sortis de là,
ben oui.
C'est fini. Ils ne bougeront pas.
De toute façon, ils ont une autre façon d'aborder les choses. Et ça, c'est une chose qu'on doit respecter. On ne peut pas passer à côté de ça. Et l'ultimatum, ça ne fait pas partie de leur... D'ailleurs, dans le fameux rapport d'Upper Wash, ils expliquent un peu comment il faut aborder... Tu sais, on dit le dialogue, la communication, tout le monde fait « ouais, ça ne donne rien ». Sauf que ça donne des résultats qui durent. Alors que la méthode forte... De toute façon, le blocus, là, c'est pas la maladie, c'est un symptôme. La maladie,
mais au Québec, là, je comprends que ce n'est pas parfait, là, puis je comprends que l'histoire est tachée. Mais depuis les dernières années, la paix des bras, c'est pas banal. La convention avec la
Baie James,
c'est pas banal. Il y a eu quand même des ententes.
Paul, il y a eu premièrement la convention de la Baie James en 1978. Après ça, en 76. En 78, est devenue la convention de la Baie James du Nord-Est québécois parce qu'ils ont inclus.
Ouais.
Ça touche les Inuits et les Cris. Les Cris ont un revenu moyen de deux fois le revenu moyen des Cris de l'Ontario, juste en commençant. Là. Ensuite de ça, il y a eu 18 conventions et amendements. Après ça, il y a eu l'arrêt de Grande-Baleine en 94 où Parizeau a dit « Un instant, ça ne peut pas marcher, il faut qu'on s'entende avec eux. » Ils ont renforcé la convention de la Baie James. Puis après ça, il y a eu la paix des braves, puis là, il vient d'avoir la Grande Alliance. Donc, c'est un travail sur 40 ans de relations avec les Autochtones qui ne s'est pas fait parce que la maudite loi sur les Indiens empêche de le faire correctement dans le reste du Canada. Et donc, ils partent de loin, de très, très, très loin. Fait que ça, eux, la tradition de négociation, c'est en cours. C'est à travers les requêtes et les revendications en cours. Ça peut pas marcher. Et puis, c'est pour ça qu'ils ne règlent pas le problème, parce qu'ils savent très bien qu'après la solution court terme, la solution long terme, elle va être très, très, très difficile à mettre en place. Mais vous avez raison de dire, c'est l'occasion jamais de le faire.
Il me semble, il y a comme la tempête parfaite. Alors, la tempête parfaite appelle à une solution. Pas parfaite, parce que rien n'est parfait. Mais il y a une chance là d'aborder ça par plusieurs côtés. Mais il faut sortir de là, je le répète, les gens qui, pour l'instant, n'ont pas d'affaires là et qui viennent, je m'excuse, polluer le débat. Et je parle des militants qui sont là. C'est pas le temps là de strictement s'en tenir juste à la question environnementale. La question environnementale, c'est... Encore là, c'est un symptôme dans cette crise-là. C'est pas le fond du problème.
Mais moi, j'ai l'impression que cette désobéissance civile-là, OK, ne pourra pas faire autrement que d'amener le gouvernement à réfléchir comme il faut à sa position d'un point de vue environnemental. Parce que les deux sont liés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir l'Alberta du pétrole. C'est ça le signal qui doit être envoyé.
Je pensais que tu allais dire « sortir de l'Alberta du Canada ».
Non, mais c'est peut-être ça la conséquence. Mais tu sais, quand tu regardes les émissions de GES de l'Alberta, je vais vous donner juste un chiffre qui est intéressant. Oui, ils en produisent 270 millions. Il y en a 120 qui sont liés à l'extraction pétrolière. L'autre, là, il en reste 150 millions. C'est le double du Québec pour la moitié de la population. Pourquoi? Parce qu'ils se chauffent encore au charbon. Ils se chauffent au mazout. L'électricité est produite avec le charbon, est produite avec du gaz naturel. Ça prend un plan ambitieux. Puis ces entreprises-là, énergétiques albertaines, il faut les nourrir, puis il faut arrêter de leur faire mettre du cash sur les anciennes affaires des pipelines. C'est fini. On sort de là.
En plus que c'est nous qui le payons, le maudit pipeline.
Il faut que Trudeau mette ses culottes.
Bien, OK. Parlons de Legault aussi. Parce qu'il faudrait que Trudeau mette ses culottes. Il faudrait que Legault prenne un pas de recul. Legault, qui s'est fait finalement isolé dans sa proposition de dire « on intervient tout de suite », a fait quelque chose qui m'a surpris de la part d'un premier ministre, c'est qu'il s'est mis immédiatement à l'écoute de la population. Les lignes ouvertes hurlaient l'envie de vouloir libérer les voies ferrées.
Sa page Facebook aussi, là.
Sa page Facebook, oui, c'est
non,
ça.
Mais c'est sûr que le réflexe des gens, c'est de dire, regarde, ils sont 12 oui, à Saint-Lambert
on comprend,
à matin,
là, on
voit deux chars, puis ils
t'ont mais est-ce que les gens, ils ne sont pas obligés d'avoir un doctorat dans les affaires autochtones, là? Ils voient une situation, ils disent, hey, c'est vrai, ils sont 12, d'habitude, ils sont en train de boire de la bière dans leur sol, puis là, ils boivent sa voie ferrée, Chris, remettez-les dans leur sol. C'est ça, le réflexe un peu raciste.
Ou les envoyer à l'Université Concordia compléter leur doctorat en histoire sur le canal La Chine.
Merci pour le complément. C'est un meilleur préjugé. Bon, mais c'est un réflexe, un knee-jerk reaction, un réflexe de base, là, devant l'attention. Hey, tu rates ton train 3 jours de suite, puis t'arrives pas au travail, puis les enfants, puis la garderie, puis maudit, moi aussi, je serais fâché. Mais l'affaire, c'est que lui est premier ministre, puis lui est entouré de conseillers. Fait que, à quoi il a pensé de dire, on va utiliser la force, puis ça va marcher. La force, dans une situation comme celle-là, ça marche pas.
Il s'est fié à sa page Facebook.
C'est ça. Non, mais je pense qu'il a envoyé un message à Trudeau, moi. En disant, tu comprends, là. Moi, là, je te prends une position extrême, là. Bouge, le grand. Parce que là.
C'est-à-dire qu'il ne suivra pas l'appel à la mutinerie du premier ministre de la Saskatchewan, mais il dit quand même, attends une minute, là, on ne peut pas.
Ça peut pas durer des semaines.
Ça peut pas durer des semaines, puis on ne peut pas avoir un dirigeant qui démontre aucune colonne vertébrale.
On va s'arrêter pour la pause. Madame Ravary, merci d'avoir participé à cette opération spéciale.
Grand plaisir, merci beaucoup.
Au retour, on va parler des pesticides, 8h44. La 13, encore une fois.